Bonjour à tous, merci à tous et à toutes pour l'accueil que j'ai eu déjà hier par les nombreux bénévoles de votre assemblée, et puis ce matin encore en arrivant. Donc oui, vous avez les salutations de notre église à Saint-Étienne, qui est une église comme la vôtre, finalement. On se sent à la maison ici aussi. Voilà, je suis pasteur là-bas depuis un an seulement. Avant, j'étais en région parisienne pour mes études et puis ma formation pastorale. Et j'ai eu l'occasion de servir là-bas. Et puis donc maintenant, depuis un an, je suis dans cette église où avec mon épouse et mes deux petites filles, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir servir dans cette ville. Nous nous sentons vraiment à notre place par rapport aux différents défis que représente cette ville. Une ville assez triste hein, pour ceux qui y vont. En général, ils sont contents d'aller partir. Voilà, nous, on était contents d'arriver là-bas parce que c'était vraiment ce terreau-là, en quelque sorte, dans lequel on se sentait appelé. Donc j'ai 28 ans et comme je vous ai dit, je suis marié. Et pour moi aussi, c'est un plaisir de pouvoir être là avec vous, de pouvoir être là aussi avec votre pasteur et puis l'ensemble de la communauté. Et j'espère que vous allez pouvoir recevoir encore quelque chose par rapport au message ce matin. Scrutez bien ce que je dis, que ce soit conforme à la parole de Dieu. Voilà. Parce que parfois, on a tendance, quand quelqu'un vient d'extérieur, à boire ses paroles. Mais voilà, ayez aussi du discernement sur tout ce que je vais vous dire. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme ce matin. C'est l'histoire d'un homme qui est pressé. On connaît tous hein, des hommes qui sont pressés. Les personnes, quand on les voit, ils sont toujours en train de courir. Et si vous avez eu l'occasion d'habiter à Paris ou de passer quelques temps à Paris, vous en avez vu beaucoup de ces personnes-là. Des gens qui sont extrêmement pressés. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui doit prendre l'avion, qui est un avion à 11h pile. Et dans sa précipitation, cet homme s'est levé, s'est habillé, a pris ses valises et puis il s'est retrouvé à l'aéroport. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pris sa montre. Alors il regarde l'heure, il cherche l'heure, il ne voit rien. Il scrute tout autour de lui pour voir si quelqu'un pourrait lui donner l'heure. Il ne voit pas l'ensemble des horloges qui sont là contre les murs. Il se demande, mais est-ce que j'ai raté mon avion ou pas encore? Et puis là, il voit un homme. Un homme qui se trimballe avec deux grosses valises. Une première qui traîne, celle-ci. Et puis une seconde valise qui est encore plus lourde. Et cet homme a vraiment du mal à marcher. Mais cet homme a une particularité, c'est que à sa main gauche, il a une montre. Une montre. Alors notre homme qui est pressé se précipite vers lui et lui dit, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner l'heure? J'ai vu que vous aviez une montre. Alors l'homme à la montre ne peut pas dire non, ça serait malvenu. Il regarde sa montre et lui dit, oui monsieur, il est 10h05 et il fait 20 degrés. Et en fait, au Japon, il est 18h et à New York, il est 15h seulement. L'homme pressé se gratte la tête et se dit, mais vous voyez tout ça sur votre montre comme ça? Et l'homme à la montre lui dit, oui, je l'ai conçu, je l'ai fabriqué et je compte l'offrir à quelqu'un. Alors l'homme qui est pressé lui dit, mais il me faut votre montre, il me la faut, elle est exceptionnelle cette montre. Il lui dit, je vous donne 300 euros maintenant et vous me donnez cette montre. Et l'homme est un peu pris au dépourvu, l'homme qui a la montre, et lui dit, non, je ne peux vraiment pas vous la donner cette montre parce qu'elle est pour mon fils. Je l'ai conçue, je l'ai fabriquée pour lui offrir lorsque je rentrerai chez moi. L'homme pressé lui dit, attendez, je vous donne 500, non 1000, non 2000 euros. Et l'homme à la montre est intelligent. Et il se dit, avec 2000 euros, j'ai largement de quoi en fabriquer une autre. Et en plus, je gagnerai un peu d'argent. Alors, il lui dit, ok, prenez cette montre, je vous la donne. L'homme pressé la met autour de son poignet, il est tout content. Il court pour avoir son vol, il arrive à l'heure. Et alors qu'il est en train de passer l'embarquement, il voit l'homme avec les deux grosses valises, ces deux grosses valises qui sont là, qui courent derrière lui, qui lui disent, attendez, attendez, n'allez pas trop vite, attendez. L'homme pressé se retourne, il le voit, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis l'autre homme lui dit, ne partez pas sans les valises, c'est les deux batteries pour la montre. Et donc l'homme qui était pressé avec, qui avait gagné, qui pensait avoir gagné quelque chose d'extraordinaire, se retrouve dans une situation difficile. Il se retrouve bien embarrassé parce qu'il avait reçu quelque chose d'extraordinaire, mais il n'avait pas pris conscience qu'il y avait deux grosses valises qui l'accompagnaient et qui étaient indispensables pour l'utiliser. Et je crois que dans la vie chrétienne, beaucoup peuvent se retrouver dans cette situation, dans la vie spirituelle. Lors de notre rencontre avec Jésus-Christ, nous étions fascinés par lui. Nous nous sommes dit, cet homme est extraordinaire. Ce qu'il fait est extraordinaire. Alors nous avons voulu lui dire oui. Et il est entré dans notre vie. Nous avons appris le plan du salut. Nous avons appris toutes ses œuvres. Nous avons appris tout ce qu'il fait d'extraordinaire. Et nos cœurs se sont remplis de joie, remplis de satisfaction. Le fait de savoir, oui, je suis sauvé. Je suis sauvé. Mais après ça, il y a eu le moment où, après avoir été sauvés, nous avons rejoint l'Église. Nous avons rejoint la vraie vie, avec toutes les valises qui accompagnent cette vie. Et vous savez, quand on entre dans l'Église, je ne parle pas du lieu, je parle de la communauté chrétienne, on se rend compte qu'en fait, le salut s'accompagne de pas mal de valises. Il y a pas mal de choses que l'on doit prendre avec. Plus ou moins lourdes. Et tout à coup, on passe d'une vie chrétienne où on se dit c'est formidable avec Jésus, et après on se dit c'est pas si facile que ça. La vie chrétienne n'est pas si facile que ça. Et il y a parfois des bagages qui semblent tellement lourds à porter, et bien qu'on a l'impression qu'ils sont en train de nous enterrer. Alors que pourtant on a cette joie d'avoir Jésus. La bonne nouvelle que Jésus et que son Père, je crois, veulent nous transmettre ce matin ici, à Clermont-Ferrand, c'est un encouragement et une solution, je crois. Ce que nous allons voir ce matin, c'est que les valises qui accompagnent notre vie chrétienne ne sont pas prévues pour nous enterrer, mais pour révéler la gloire de Jésus-Christ. Amen. Elles ne sont pas prévues pour nous enterrer, toutes ces valises, on en parlera tout à l'heure, mais elles sont là pour révéler la gloire de Jésus-Christ. Je vous propose que maintenant on puisse lire la Bible, la parole de Dieu. En Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 25. Une petite anecdote qui n'a pas grand-chose à voir avec le message. Lorsque j'étais en train de faire mes études pastorales, je me suis rendu compte que les pasteurs disaient souvent, on va lire un passage bien connu. Et je m'étais dit jamais, je ne dirais ça. Et quand j'ai préparé ce message, je me suis rendu compte que le premier mot que j'ai marqué dans mon message est « On va lire un passage bien connu ». Alors, ce matin, je ne sais pas si ce passage est bien connu, mais en tout cas, c'est un passage que la Bible nous montre et qui est merveilleux. Voilà ce que nous dit l'évangéliste Matthieu au chapitre 11. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Dans les versets qui précèdent ce que nous avons lu, on remarque que l'annonce de l'Évangile s'accompagne d'une opposition, croissante. Matthieu met en lumière que face à la bonne nouvelle, lorsque l'on prêche l'Évangile, beaucoup de cœurs se ferment. Les hommes ne comprennent pas les signes qu'ils voient, ils ne comprennent pas les miracles et les enseignements de Jésus et de Jean-Baptiste avant lui. Ainsi, le Seigneur, au verset 20 à 24, fait de sévères reproches, des réprimandes aux villes dans lesquelles il a accompli beaucoup de miracles, et pourtant, malgré tous ces miracles, les personnes n'ont pas changé d'attitude, n'ont pas changé d'habitude. Ils se sont endurcis. Leurs cœurs se sont endurcis. Dans le passage que nous avons lu, nous nous rendons compte que Jésus n'est pas pris au dépourvu par cet endurcissement du cœur. En effet, il est pleinement conscient que sa mission, sa venue sur cette terre, implique une séparation. Une séparation entre ceux qui croient et une séparation entre ceux qui ne croient pas. Jésus est tellement conscient que sa réponse naturelle dans cette situation, lorsqu'il voit que les personnes ne répondent pas favorablement à son appel, ne changent pas de vie, bien, ce n'est ni l'agacement, ni l'incompréhension, mais la louange. Comprenez bien. Vous connaissez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui manifestement fait quelque chose de très mauvais à votre égard, à vos yeux. Vous lui donnez les clés, vous lui expliquez, vous lui montrez des preuves de pourquoi est-ce qu'il faut changer, et cette personne ne veut pas. Cette personne continue, s'endurcit. Et votre réaction, plutôt que l'agacement, serait « Merci Seigneur ». Ce n'est pas une réaction normale pour nous. Mais c'est la réaction de Jésus, la louange envers son Père. Une louange, excusez-moi, qui peut nous étonner, mais que nous allons approfondir. Jésus nous dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » Jésus introduit sa prière par deux expressions fondamentalement importantes pour notre compréhension de qui est Jésus. Jésus appelle son Père « Père », ça nous montre qu'il est son Fils, simplement. Et ensuite, Jésus dit « Seigneur du ciel et de la terre ». Ça nous montre que le Père de Jésus-Christ n'est pas simplement son Père, mais il est aussi pleinement Dieu. La louange de Jésus, ici, qu'il fait monter vers son Père, s'appuie sur la révélation de certaines choses. Parce qu'il nous dit « Je te loue de ce que tu as caché certaines choses ». Quelles sont ces choses? En réalité, c'est tout ce que vient de reprocher Jésus. Il passait dans les villes, comme je vous disais, et puis il a fait des miracles, il a annoncé des choses, et les gens ne se sont pas repentis, ne sont pas revenus à lui. Jésus rend gloire à Dieu à la fois pour ceux qui refusent de reconnaître, et en même temps pour ceux qui acceptent, tous ceux qui reconnaissent. Il est question dans ce passage de deux types de personnes. D'un côté, nous avons les sages et les intelligents, et de l'autre côté, ceux qui sont vus comme des petits. Lorsqu'on parle d'intelligent, bien sûr, il n'est pas question ici de mettre en cause l'intelligence pour elle-même. Elle est créée par Dieu, elle est donc bonne et elle peut être utilisée pour de bonnes choses. En réalité, ici, Jésus est en train de reprendre ceux qui se confient dans leur propre sagesse et leur propre intelligence, considérant que leur faculté naturelle est suffisante pour savoir qui est Dieu. Ils se pensent capables de discerner la personne de Dieu, de discerner sa volonté, de discerner ses attributs, au seul moyen de leur sagesse et de leur connaissance, sans avoir besoin de passer par Jésus. À ce temps-là, nous avions les pharisiens, qui étaient particulièrement visés. Les pharisiens, je vous rappelle, hein, comme je l'ai entendu, ce ne sont pas des gens qui habitent en Pharisie, hein. C'est un courant religieux de l'époque, et ils étaient particulièrement condamnés par Jésus pour leur sentiment de suffisance. Ils se présentaient en fait finalement comme des hommes qui n'ont pas besoin de Dieu. Et c'est à cause de cette confiance aveugle dans leur sagesse et dans leur intelligence qu'ils sont incapables de comprendre les œuvres de Dieu. Les sages et les intelligents ici sont présentés comme ceux qui sont bien vus, pas seulement les pharisiens. Et à côté de cela, nous avons ceux qui sont présentés comme les petits. Les petits ici ont une attitude totalement différente, ils sont comme des enfants, ils sont dépendants, ils reconnaissent leur besoin d'aide, ils sont faibles aux yeux des autres, alors que ceux qui sont condamnés sont présentés comme étant autosuffisants. Les tout petits ici mettent l'accent sur leur dépendance vitale. Alors la prière de Jésus met en avant la souveraineté du Père et la pleine soumission du Fils. Le Fils parle, le Fils parle, le Fils fait ce que le Père lui demande de faire. Et nous, on peut avoir l'impression ici que le Seigneur bénit son Père pour un échec, en quelque sorte, pour l'échec de sa mission. Je leur ai parlé, ils n'ont pas accepté. Je te remercie pour cet échec. Mais en réalité, ce n'est pas un échec. Parce que cela, ça nous montre le fait que l'Évangile ne perce pas dans le cœur de ceux qui sont autosuffisants, nous montre ici la raison, le but, l'essence même de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Il est venu pour sauver les indigents. Il est venu pour guérir ceux qui étaient malades. Il est venu pour pardonner ceux qui se savent pécheurs. Il est venu pour accepter, pour accueillir ceux qui sont rejetés. C'est la raison même de la venue de Jésus-Christ. Renverser les situations. Ceux qui sont négligés par les puissants seront ceux qui seront puissants en Jésus-Christ. Oui, Père, car dans ta bonté, tu en as voulu ainsi. Le salut et la connaissance du Père, c'est une grâce, une véritable grâce. Et Jésus n'a aucun problème pour dire que son Père cache à l'un et révèle à l'autre. Dieu agit sur une humanité qui est pécheresse. Nous en avons parlé tout à l'heure pendant la louange. Nous sommes pécheurs. Il ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Si ce n'est le jugement pour nos fautes. Ça, c'est ce que Dieu nous doit, en quelque sorte. Ainsi, l'idée de cacher ici n'est pas un acte d'injustice de Dieu envers les orgueilleux. Non, c'est une forme de jugement qui commence déjà et qui s'accomplira pleinement dans l'éternité, au retour de Jésus-Christ. Mais ce qui doit nous interpeller ici, c'est surtout que le texte met l'accent sur le fait que ceux qui se glorifient de comprendre les choses divines seront jugés, parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas. Alors que ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont considérés comme petits, sont enseignés par le Seigneur lui-même et menés au salut. Le verset 27 nous dit « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. » Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ces versets nous rappellent simplement, je ne vais pas rentrer en détail sur cette partie, c'est que nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ, comme dit Jean 14, 6. Si le Fils peut nous révéler le Père, c'est parce qu'il le connaît pleinement. Il est le seul qui soit de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit. Il est le seul qui connaisse réellement les pensées du Père. Et qu'il peut nous les révéler. Maintenant, la suite, peut-être qui vous concerne plus directement ce matin, et qui concerne directement les valises que je vous ai présentées tout à l'heure. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et trouvez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. C'est le point culminant ici de la révélation que Jésus veut apporter dans cette partie-là. Après avoir dénoncé ceux qui ne veulent pas recevoir le recevoir, maintenant Jésus ouvre la porte de la libération et de l'espérance pour tous ceux qui veulent bien placer leur foi en lui. Et il appelle ceux qui sont faibles, il appelle ceux qui sont petits, ceux qui sont accablés, ceux qui sont sous un lourd fardeau à venir jusqu'à lui. Et je crois que c'est un appel extraordinaire ici que nous fait Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Dieu lui-même. Et c'est une invitation qui doit dépasser toutes nos espérances. Parce que, rappelez-vous, il y a un mur de séparation entre nous et Dieu à cause de notre péché. Et Jésus prend l'initiative de détruire ce mur pour te dire, viens. Viens avec ta douleur, viens avec ce que tu portes sur toi, viens. Je détruis ce mur pour que tu puisses venir. De manière à ce que ce fardeau qui est lourd et pesant puisse être enlevé. Mais alors de quel fardeau est-ce qu'il est question ici? Je vois au moins deux types de fardeaux. Le fardeau de notre péché et les différents fardeaux qui accompagnent notre vie chrétienne après le salut. Donc le premier, c'est celui de notre péché. Cette séparation, ce mur de condamnation qui nous empêche de vivre en harmonie et en paix avec Dieu. Nous sommes accablés sous ce poids de la condamnation. Au cours de la Bible nous dit que vous devez obéir aux ordonnances et à mes lois, et l'homme qui appliquera vivra grâce à cela. Je suis l'Éternel. C'est ce que nous dit l'Ancien Testament. Celui qui arrive à se soumettre pleinement aux lois de Dieu arrive à être sauvé. Or, la Bible nous montre qu'aucun homme n'est capable d'y arriver. Alors nous essayons par nos propres moyens de nous soumettre à Dieu en espérant de gagner cette vie éternelle. On espère, on fait tout pour pouvoir s'en sortir, pour faire le bien autour de nous, pour gagner cette vie. Et on lutte avec nous-mêmes, on lutte avec nos péchés, on lutte avec toutes les circonstances de nos vies, et on se rend compte finalement que plus je lutte, plus je tombe, plus je m'éloigne de Dieu. Le mur semble ne faire que grandir. Comme la Bible nous le dit, il est impossible à un homme pécheur de se sauver par ses propres forces. Par ses propres œuvres. Car en raison de son péché, notre Dieu qui est juste doit exercer la sanction de la condamnation en cours notre péché. La mort, la séparation avec Dieu. Mais c'est là, Romains chapitre 5, je l'ai dit hier soir, je le redis ce matin, retenez-le. C'est là que Dieu prouve son amour envers nous, car alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Il a porté sur lui ce fardeau qui est le péché. Il l'a porté sur lui, afin que la justice de Dieu soit accomplie et manifestée. Et comme j'ai l'habitude de dire, vous savez, la croix qu'on a là, c'est pas de la magie. C'est pas simplement je m'approche de Dieu, je demande pardon, hop, et Dieu prend une éponge et il efface mon péché. C'est pas ça la croix. La croix, c'est je demande pardon, mon péché existe, mon péché va sur la croix et quelqu'un meurt à ma place. Et c'est là que mon péché disparaît. C'est pas une éponge. C'est le Christ qui meurt pour mon péché. C'est ça la croix, c'est pas de la magie. Ainsi aujourd'hui, tous ceux qui se reconnaissent comme accablés par le poids du péché sont appelés à répondre à cette invitation. Venez à moi. C'est le Christ qui dit ça. Venez à moi. Arrête de te battre pour essayer de plaire à Dieu pour obtenir ton salut. Parce que le Seigneur te l'offre par grâce. De manière à ce que ce ne soit pas tes œuvres qui te sauvent, mais Dieu seulement. Arrête de te battre pour plaire à Dieu, en rachetant ton âme par des œuvres. Abandonne-toi. Avant d'être pasteur, j'ai fait des études en maintenance industrielle, et notamment je me spécialisais pour réparer des ascenseurs. Je ne sais pas si vous, c'est comme à Paris, mais en tout cas à Paris, les ascenseurs sont tout le temps en panne. Donc on avait beaucoup de boulot. Et ce qui est marrant, extraordinairement marrant, c'est que lorsque quelqu'un est coincé dans un ascenseur, ça révèle sa vraie nature. La personne ne porte plus de masque. Je sais, est-ce que quelqu'un est déjà tombé en panne dans un ascenseur? Oui, il y en a quelqu'un. J'espère que vous en êtes sorti, si vous êtes là. On se rend compte, c'est ce que l'on voit, et je caricaturerai un peu quand même. Mais une fois qu'une personne est coincée dans un ascenseur, qu'elle est bloquée dedans dans cette cabine, les personnes commencent à imaginer tout un plan pour sortir de cette situation. Ils commencent à taper sur les portes pour voir si ce n'est pas la porte qui est bloquée. Après, on essaie d'ouvrir la porte, on fait remuer la cabine. Et finalement, quand on ouvre la porte, on se rend compte qu'il n'y a même pas de porte en face, il y a un mur. Et puis, on crie, on commence à crier tout notre fort pour que les personnes puissent nous entendre, pour qu'on puisse nous sortir. Et puis, on se met à pleurer au bout d'un moment parce qu'une personne nous entend. C'est insonorisé, la cabine d'ascenseur. Et puis on se rappelle dans les films, il y a une trappe au-dessus, est-ce qu'on peut passer? Et après on se dit non, il n'y a pas de trappe en fait. Et puis après, quand on est au fond du gouffre, on ouvre les yeux avec les larmes, avec les yeux qui piquent. Et puis là on voit qu'il y a un petit bouton jaune. Un tout petit bouton jaune avec une cloche dessus. Et puis, t'appuies dessus, puis derrière toi, il y a quelqu'un qui parle dans sa main. Et qui te dit bonjour, est-ce que vous avez un problème? Et puis, personne en pleurant dit oui, mais là, il y a un problème. Et puis finalement, quelques minutes, peut-être quelques heures après, eh bien, il y a quelqu'un qui vient simplement pour désincarcérer la personne. Et tout est fini. Parce que celui qui a créé la cabine dans laquelle tu es resté bloqué avait déjà, en réalité, créé le moyen de t'en sortir s'il y avait un problème, s'il y avait une défaillance. De manière à ce que tu n'aies pas besoin de chercher par toi-même un moyen de te sortir de cette cabine. Eh bien, Dieu a fait la même chose avec chacun d'entre nous. Il a créé ce monde, ainsi que les hommes et les femmes qui le peuplent. Ce monde s'est détraqué, aujourd'hui, à cause du péché. Et tu es, en quelque sorte, coincé dans cette cabine en panne, qui est ce monde avec le péché, et tu essaies de t'en sortir toi-même, mais avant même que tu naisses, avant même que les deux bébés naissent, dont on a parlé tout à l'heure, avant même que tout... ces personnes naissent, Dieu avait déjà prévu la seule et unique façon, la meilleure façon de pouvoir te sortir de cette cabine dans laquelle tu es coincé. Son Fils, Jésus-Christ. Alors, n'essaie pas de forcer les portes de ta vie pour te sauver, mais simplement, appuie sur ce bouton qui est le fait d'appeler le Seigneur à l'aide, le Seigneur Jésus. Et je crois que ce passage ne se limite pas simplement au fardeau que représente le péché. Car comme nous l'avons vu dans l'introduction, lorsque l'on fait cette rencontre avec Jésus, rapidement on se rend compte que tout n'est pas si facile. Tout n'est pas aussi facile qu'on l'imaginait lorsque l'on veut, après, par reconnaissance, pour se soumettre à la parole de Dieu. Et notre vie est semée d'embûches, de difficultés, d'épreuves, parfois de tentations. Et on aimerait que tout soit réglé. Et on se dit, vu que je suis chrétien, Dieu me donne tous les moyens grâce à son esprit pour m'en sortir. On cherche des solutions tout autour de nous. Alors qu'en fait, comme pour l'homme pressé de l'introduction, avec le salut, on a deux valises qui sont indispensables à notre bonne marche. Il est probable que lorsque je vous ai parlé des valises, vous vous disiez que ces valises-là, c'était les valises qui me pèsent et que je dois déposer à la croix. En réalité, ce n'est pas ça ici dont il est question. Parce que dans cette valise-là, il y a ce que l'on appelle le joug du Seigneur Jésus. Se mettre sous le joug du Seigneur Jésus. Et dans celle-ci, il y a le fait de se mettre à l'école du Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et alors, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Le verset 29 explique ce que... Le verset 28 nous dit « Venez-vous décharger » et le verset 29 explique ce que veut dire pour Jésus se décharger sur lui. On a souvent isolé ce verset 28 dans un slogan évangélique extraordinaire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et on ne parle pas du reste. Et en fait, quand on isole cela et qu'on ne parle pas du reste, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » Eh bien, c'est comme si on enlevait une partie de la puissance de son passage. Parce que Dieu nous appelle à venir avec notre péché, avec notre situation, parfois aussi qui n'est pas forcément un péché, qui nous pèse, que l'on dépose à la croix, mais il ne nous demande pas de repartir les mains vides. Il ne nous demande pas de repartir les mains vides. Il nous demande de prendre avec lui les deux valises, de prendre avec lui le fait de se mettre sous le joug du Seigneur et le fait de rester à son école. Parce que la paix que nous recherchons découle de cela. Le joug, vous savez, je l'imagine, c'est une lourde pièce utilisée pour imposer la bonne condition aux animaux qui travaillent dans les champs. On la place sur eux de manière à ce qu'ils aillent tout droit et suivent le bon chemin. Se mettre sous le joug de Jésus, c'est proclamer et vivre sous l'autorité de Jésus. C'est marcher dans le sillon, dans le chemin qu'il a tracé, qu'il trace devant nous et qu'il nous révèle au travers de sa parole. C'est sa parole, la Bible, que nous avons lue tout à l'heure. Merci. Le fait qu'on l'ait lu pendant la louange. C'est cette Bible-là, cette parole de Dieu, qui nous montre quel chemin prendre, comment marcher avec Jésus-Christ, comment se mettre sous son joug. Continuer toujours de se mettre à l'école de Jésus-Christ, la deuxième valise, c'est considérer, toujours, se considérer toujours comme étant à être enseigné, comme n'en connaissant jamais assez sur Jésus. À partir du moment où tu te dis « j'en connais assez sur Jésus, je peux passer à autre chose », eh bien c'est qu'il faut en apprendre plus sur lui. Parce qu'on n'en connaîtra jamais assez sur le Seigneur Jésus. Alors, peut-être que parmi nous ce matin, il y a des personnes qui ont de lourds fardeaux, et je voudrais simplement t'encourager à aller à la croix devant le Seigneur Jésus, déposer ce fardeau, mais aussi alors que tu déposes ce fardeau, te placer devant Dieu, devant Jésus, et lui dire « Seigneur, je ne veux pas repartir les mains vides. Je veux repartir avec toi. Je veux repartir avec ta parole et je veux tout faire pour marcher comme tu me le demandes. Je vais certainement tomber, mais je reviendrai. Mais je veux ne pas repartir les mains vides. Je ne veux pas juste venir à toi pour que tu me fasses du bien. Je veux venir à toi pour que ta vie devienne ma vie au fur et à mesure. » En conclusion, nous avons vu ensemble que Dieu se soucie réellement de ceux qui souffrent. Si tu souffres, il se soucie réellement de toi. Et dans un second temps, nous avons vu que cette invitation extraordinaire nous concerne tous. Si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, il t'offre encore ce matin cette possibilité de rencontre pour être sauvé, libéré de tes péchés. Et si tu es chrétien, que tu vis déjà dans cette présence du Seigneur, tu as certainement aussi des difficultés. Et le Seigneur ce matin encore t'invite à venir à lui déposer ses difficultés et repartir avec lui, avec ses deux valises. en te plaçant sous le joug du Seigneur et en restant à son école. Je finis par une introduction et après je demanderai à... D'abord je fais... Après Eric, tu verras bien. Je suis tombé il y a quelques mois en panne sur l'autoroute. Bah justement, d'ailleurs je redoutais de venir ici parce que c'est sur l'autoroute des Clermont que je suis tombé en panne. Et donc du coup, avec mon épouse, mes deux petites filles, nous étions en panne sur l'autoroute. J'étais totalement perdu, j'étais jamais tombé en panne comme ça. Je ne savais pas quoi faire, j'ai juste vu qu'il fallait que j'appelle mon assurance. Et à partir du moment où j'ai appelé l'assurance, parce que je n'avais pas d'autre solution, eh bien, l'assurance m'a dit ce que je devais faire. Enfin, en gros, elle m'a donné des ordres. Elle m'a dit, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Et je n'avais pas d'autre choix que de suivre ce que l'assureur me disait si je voulais sortir de l'autoroute. Donc je l'ai fait, de manière à ce que je puisse sortir de cette situation. Avec Jésus, il y a des choses semblables. En le sens où, lorsque l'on va le voir, parce qu'on a des soucis, il nous prend charge. Et puis il nous dit, eh bien maintenant, prends mon joug. Continue de te mettre en école. Continue de faire ceci. Et tu vas voir, tu vas pouvoir t'en sortir. Simplement, ne t'arrête pas à la première étape, qui est de le contacter, qui est de téléphoner ou de te placer devant lui. Mais aussi, écoute simplement ce qu'il va te donner comme conseil pour pouvoir t'en sortir. Et nous avons la bénédiction, vous avez la bénédiction d'être dans une église, ici, avec des frères et sœurs, qui pourront être aussi pour vous des personnes qui pourront vous aiguiller aussi, j'espère, avoir de la sagesse pour vous donner des solutions, pour vous accompagner dans les différentes situations que vous pouvez vivre. Eric, si tu veux bien venir, et je vais inviter chacun à baisser la tête, simplement, fermer les yeux. Et puis je vais dire quelques mots, et si quelqu'un se sent concerné par cela, bien simplement qu'il puisse lever la main. Et ensuite, je demanderai à votre pasteur de bien vouloir prier pour chacun d'entre eux. Voilà, si on peut fermer les yeux de manière à ce que chacun se sente libre, sans se sentir observé. Si ce matin tu fais partie de ceux qui ne connaissaient pas Jésus, qui ne le connaissent pas, et que tu as ce fardeau de tes péchés qui t'inquiète, eh bien, sache que la croix reste debout encore aujourd'hui et que l'œuvre du Seigneur Jésus t'appelle. Lui-même t'appelle à la croix et te dit, viens, viens jusqu'à moi, viens déposer ce fardeau que je puisse t'en libérer. Et peut-être que parmi nous, il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent déjà personnellement le Seigneur Jésus et qui se posent la question, mais comment est-ce que ça se fait que j'ai encore tous ces fardeaux, toutes ces choses sur mon cœur, toutes ces choses qui me rabaisse en quelque sorte jusqu'à terre, toutes ces choses trop lourdes à porter pour moi. Et ce matin, tu te dis, oui, j'ai envie de venir à la croix, parce que tu connais cette situation dans ma vie, tu connais ce fardeau que je porte, tu connais cette chose qui me fait pleurer. Et Seigneur, ce matin, je veux me placer devant toi et je veux te dire, je te dépose cela, mais je veux aussi m'engager devant toi pour que je continue à marcher à ta suite. Je ne viens pas simplement réclamer quelque chose, mais que je vienne aussi me conformer à toi pour recevoir cette paix. Alors si tu te sens concerné par ce que je viens de te dire, je t'invite simplement à pouvoir élever la main à ta place, librement, sans crainte d'être jugé. Le Seigneur voit toutes ces mains qui se lèvent, et je crois que ce matin, il vous bénit, et je vais demander au pasteur de bien vouloir l'aider.
Seigneur, elle est mystérieuse cette parole. De ce que nous charger du joug, de nous mettre à ton école, de prendre ses valises, eh bien ça nous apporte le repos. Et Seigneur, j'aimerais te prier que ce repos descende sur nous. Nous puissions le connaître au plus profond de nous-mêmes, de notre intimité, là où tu nous rencontres. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour chacun d'entre nous, en particulier pour ceux qui ont levé leurs mains, ceux qui ressentent le besoin de toi. viens, Seigneur. Rencontre-nous. Nous voulons te suivre. Merci, Seigneur, pour Jésus qui nous permet d'être réconcilié à toi, qui te présente à nous, qui fait cette présentation une semaine toujours plus loin. C'est en son nom que nous te le prions. Amen.
Merci pour ce message, Rodolphe. Merci parce que là aussi, il y en a pour tout le monde et que chacun puisse continuer à s'examiner et à continuer à vivre ce message. Les fardeaux, oui, nous pouvons les porter aussi en Église. Pour nous porter les fardeaux, nous pouvons porter nos joies aussi, être reconnaissants pour ce que le Seigneur fait pour nous. Et nous prions cette semaine pour trois personnes et familles que nous voulons là aussi porter et soutenir. Nous prions pour Jacques et Catherine Arnoux, notre couple, allez, les plus âgés de l'Église peut-être, je ne sais pas, mais bon, non peut-être pas. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir avec nous et vous êtes très fidèles et ça, c'est quelque chose d'encourageant pour nous. J'ai demandé à Sophie de prier pour Jacques et Catherine.